dans le chat, est-ce que vous êtes prêts pour l'épisode sur les 50 ans? Wouh! 10 ans qu'on se prépare. Est-ce que vous êtes chaud?
Oh putain, il y a du caps lock.
Ah, ça caps lock du oui dans le chat. Ah, du yeah, du ouais, wouh, 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 wouh. Allez, 1, 2, 3.
It's the same story every time, and it always begins with the same two words.
What two words?
Doctor? Doctor who?
Bonsoir et bienvenue dans Dr. Watt, le podcast qui vous parlera. Je ne me souviens plus. Je sais pas, c'est l'âge peut-être qui fait ça, mais on va parler de quoi ce soir?
De Dr. Who!
Ah oui, dis donc! Oh putain, on est là pour ça. Oh, j'ai cru que je m'étais trompé. Donc on va parler de Dr. Who avec tout le monde réuni dans notre TARDIS virtuel. Salut Format!
Salut Grand Poil!
Salut Pomme!
Salut!
Et salut Zu!
Salut Grand Poil!
50 ans!
Wow.
Heureusement que. Putain, Dr. Who est plus vieux que moi quand même.
Ouais.
Ça me fait plaisir, ça me fait quand même un peu du bien.
Ah bah, beaucoup plus vieux même du coup. Parce qu'on a, on a 10 ans de retard quand même sur le bébé là.
Ouais, bah ça va bien vite, hein. On sait jamais. Hein. Est-ce que vous étiez aussi content que moi de revoir cet épisode?
Oui.
Eh ben,
oui, clairement.
Moi je m'y attendais pas, mais oui, grave.
Ah ouais? J'avais. Au moment où ils avaient annoncé la sortie de ce truc là, j'étais impatient comme un fou furieux. En plus, je crois que c'était une des premières fois où on avait une diffusion quasi simultanée en France.
Dans le monde.
Simultanée dans le monde?
Dans le monde, oui, mais le reste du monde, on s'entend pas.
On n'y est pas dans le reste du monde, on s'en fout.
On n'y est pas, voilà, exactement.
Alors oui, je crois qu'il y a un Guinness Book des records de simulcast, oui, dans le monde entier, dans des versions doublées.
Non, mais c'est ça, c'était
le
doublé,
donc,
sous-titré.
Ouais, exactement.
Non, doublé.
Doublé et sous-titré.
Si,
c'était sur France 4.
Sous-titré, doublé, je sais plus.
Mais c'était doublé, oui. On l'a eu en VF sur France 4. Hein.
Ouais. En multi.
Écoutez, j'ai essayé de faire ça bien, mais comme j'étais un fucking pirate, j'avais tout en diffusion simultanée ou pas loin. Mais là, au moins, bon, je pouvais en discuter avec les gens qui le regardaient sur France 4 directement.
Vous souvenez de votre visionnage de cet épisode? Vous l'aviez vu en direct le jour même, vous ou pas?
Ah bah oui. Ah oui, moi oui. J'ai regardé toute la soirée.
Moi j'ai malheureusement pas pu, mais dès le lendemain matin, genre à 6h du mat, j'avais lancé l'épisode.
Bah, nous on avait fait un visionnage avec des copains, notamment Benoît qui participait à Sky is the Limit, podcast du label. Et voilà, on avait fait apéro et on avait regardé ça et commenté tous ensemble.
Moi je l'avais regardé chez Greg et Delphine, qui maintenant font Agatha Christie, mais qui ne faisaient pas de podcast à l'époque, on n'en écoutait même pas.
Il y a beaucoup d'entre-soi dans ce groupe-là.
Ouais, on l'avait regardé chez eux. Tous les trois, on s'était fait une bonne popote comme on faisait à chaque fois qu'on regardait un truc ensemble. On avait l'habitude de regarder Top Chef ensemble, en se faisant un bon repas à chaque fois. Donc là, c'était pour ça. Et pareil. Et je sais que le lendemain, je bossais très tôt. Donc c'était compliqué de rentrer chez moi, machin. Donc j'avais même dormi chez eux pour partir dès 6h du matin pour partir bosser. Et pour le coup, je me souviens de la soirée, mais pas du tout du visionnage.
Elle se souvient de ce qu'elle avait bu?
Non, même pas. Mais non, je prenais, ouais, je bossais, voilà, le lendemain, je prenais la voiture très tôt, j'ai pas picolé.
Ben moi, je me souviens que je venais d'arriver dans les Vosges avec mon canapé et je faisais découvrir la série, en fait, parce qu'ils savaient pas et ils voyaient que j'étais hyper fan.
Ce canapé-là.
Donc voilà.
Oui, non, ça fait longtemps qu'on n'avait pas utilisé cette expression, donc je me suis dit, tiens, il se promenait avec son canapé. Il devait être vraiment très très attaché à ce canapé.
On était pas loin l'un de l'autre, vu que donc le soir des 50 ans, je l'ai maté chez mes potes à Épinal.
Ah mais ouais, on était vraiment pas loin. Ah mais vraiment, j'habitais à 45 minutes d'Épinal.
Eh ouais, non mais voilà,
c'est, oh là
le
là,
destin
là,
vous
non,
a enfin réuni.
On était destinés
enfin
à être ensemble déjà, en fait.
Tous, on a des liens, tu vois. Grand Poil et moi, on faisait la fête il y a 20 ans au même endroit sans se connaître.
C'est ça.
Il n'y a que moi, en fait,
il y a 10 ans.
C'est dingue.
Non, mais non, pas.
Ah non.
Et bien, les 60 ans, je les ai vus aussi chez Greg et Delphine. Voilà.
La boucle.
Moi, je l'ai aussi vu avec mon canapé.
Le même canapé?
C'est le même, hein.
Le même canapé, exactement.
Faut changer le matelas au bout d'un moment, mais après, sinon, ça va. Tant que la structure est tienne, ça va.
Bon allez, je vous propose qu'on enchaîne.
Oh, I'm gonna regret this. Okay, right, first, general background.
Alors, de quoi ça s'agit ce soir?
Doctor Who!
Merci, merci.
Alors, est-ce que vous vous souvenez quand vous l'avez vu pour la première fois cet épisode?
Ah merde, j'aurais peut-être dû lire le conducteur. Putain, et la seule fois de ma vie où j'ouvre pas ce putain de conducteur, je nique tout. Je vais y aller de ce pas.
Tu peux annoncer format directement, hein. C'est juste moi qui faisais une vanne, hein, grand poil.
Ah putain. Ah bah bien joué, mais au moins le conducteur est ouvert maintenant.
Donc du coup, mais en fait comme l'épisode est long, je vous tenais à mettre des longueurs aussi. Non, je rigole. Alors, nous sommes dans, avec l'épisode de Day of the Doctor, donc le jour du docteur, qui est sorti le... Ah oui, non, il n'est pas sorti le 18 mai ni le 6 juillet. Non, non, il est sorti le 23 novembre 2013. Hein.
Oui, oui, bah oui, oui.
Ça sent le copier-coller d'un épisode d'avant, ça.
Oui, totalement.
Le réalisateur, c'est le bon aussi ou...
Oui, ça, c'est le bon. Le réal, c'est bon.
Le réal, ok, c'est bien Nick Uran. Nous avons toujours Steven Moffat en tant que scénariste. Et en docteur, nous avons David Tennant, ouh, John Hurt et Matt Smith. Aïe, aïe, aïe.
Trois docteurs pour le prix aussi... d'un.
Ouais, exactement. Et nous avons Clara, qui est interprétée par Jenna Louise Coleman. C'est toujours Jenna Louise Coleman à ce moment-là ?
Oui.
Ils n'ont pas encore changé son prénom.
Ah, pourquoi ils ont changé son prénom à un moment ?
Oui, à un moment donné, elle s'appelle juste Jenna Coleman.
Ah oui, son nom de famille, d'accord, ok. Ah oui, non, c'est son prénom, voilà. Jenna Louise.
Son prénom, son prénom.
Oui. Je croyais que c'était Jenna Louise Coleman.
Il y a des tirés quand même.
Et nous avons aussi une autre actrice notable qui est Billie Piper.
Elle est revenue.
Elle est revenue.
J'ai grincé des dents, hein, la première fois.
Oh, n'importe quoi. Pourquoi ?
Mais c'était la logique de... Elle me saoulait. Ça m'avait gavé de la revoir pour la fin de Tenante. Et là, elle revient. Elle me saoulait encore. Mais depuis j'ai fait Dr. What.
Elle revient. Et en plus, elle était trop bien. Alors, je trouve qu'en plus, là, dans les acteurs notables, on le dira peut-être à la fin, mais il y a quand même une apparition de... tout ou presque les docteurs des classiques.
Ah oui, bah, de toute façon, dans quel docteur... Dans quel docteur on pourrait mettre tous, en fait ? Parce que c'est un peu un vrai multidocteur.
Alors, presque tous, mais oui.
Oui. Et le synopsis, le docteur et Clara enquêtent sur quelque chose qui vient envahir la Terre. Et en parallèle, il y a deux autres docteurs qui vont entrer dans la vie du 11e pour résoudre un mystère encore plus grand, celle de la fin de la guerre du temps. Voilà, ça va.
Très beau résumé.
C'est très bien.
Oui.
Bon, bah super.
T'en dis pas trop, comme ça le résumé d'après est plus détaillé.
Exactement.
Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode ? Est-ce que vous le recommandez à des nouveaux ou des nouvelles auditorices, téléspectatorices ?
À des nouveaux Non.
Bah en vrai, si, ça se... C'est... Il y a rien... Enfin, à partir du moment où tu sais... Tu connais les bases de Doctor Who, c'est-à-dire que il se régénère, Gallifrey, il y a eu la guerre et c'est lui qui les a tous tués. Une fois que tu sais ça, bah tu peux te lancer dedans assez facilement. Hein.
Ouais, mais du coup c'était pas nouveau.
En toute honnêteté, ouais, ou pas loin, parce que même en toute honnêteté, quand tu connais pas les classiques, t'es à peu près perdu comme tout le monde dans cet épisode.
Ah oui, par contre t'as pas besoin de connaître les classiques, mais quand t'en arrives à cet épisode-là, si tu connais que la New Who, t'es quand même pas un nouveau. On est à cette saison, hein.
Ouais, je suis d'accord, mais tous les éléments qui sont introduits. Alors, c'est des easter eggs, hein. Il y a plein de... Que ce soit Rose, que ce soit justement Tennant, le Fez, la Reine, tout ça. C'est des easter eggs, mais je trouve qu'effectivement, l'épisode, il peut se regarder sans les relever.
Peut-être, j'arrive pas à savoir.
Et comprendre comment comprendre les implications ou les insinuations qu'il peut y avoir, les sous-entendus, mais ça passe, quoi.
Surtout que on a le pire et le meilleur de Moffat dans cet épisode. C'est-à-dire, le pire... C'est Moffat a un problème avec l'idée de tuer des gens dont, sans spoiler le spoil, finalement personne n'est mort. Donc ça c'est le pire, mais le meilleur c'est que Moffat sait écrire des bons dialogues et donc il arrive à cacher des easter eggs ou des choses dans la manière d'écrire les choses qui font que même si on connaît pas très bien la série, on va avoir une lecture, et si on connaît très bien la série, on aura une autre lecture.
Cet épisode est un one-shot, et Moffat est très bon dans les one-shots.
Exactement. Ah, alors là, je suis entièrement d'accord.
La relation entre les docteurs, ça fuse dans tous les sens. Tennant et Smith ensemble, c'est que du... Franchement, c'est un plaisir.
C'est un génial. Ouais.
Et quand tu rajoutes John Hurt au milieu, qui est un peu plus sage, mais qui les vanne quand même, moi je kiffe. Franchement, c'est total, complètement ma cam.
Et donc moi je me souvenais pas du tout de l'épisode, je me souvenais qu'il y avait Rose, j'étais persuadée que la moitié de l'épisode se passait dans la grange, mais vraiment j'en étais convaincue, j'avais retenu que cette grange en fait, Et donc, j'avais en souvenir un truc un peu chiant, voilà. Rigolo vite fait, je me souvenais qu'il y avait 2-3 points qui m'avaient fait sourire, mais plutôt chiant. Là, je l'ai regardé sur le... Enfin, j'allais dire sur le Discord de Podcut. En fait, on a été 3 sur le Discord de Podcut à lancer l'épisode en même temps, ce qui fait qu'on en a discuté pendant qu'on le regardait. C'était très sympa, d'ailleurs. Et j'ai eu le smile pendant tout l'épisode. J'étais trop contente de voir cet épisode, de le découvrir, de voir la dynamique qu'il y avait entre les personnages, de le voir après avoir vu celui des 60 ans. J'en dirai pas plus pour pas spoiler celui des 60 ans, mais du coup, il y a quand même plein de trucs qui m'ont tilté pendant cet épisode par rapport à des choses qui ont pu être dites ou projetées suite à l'épisode des 60 ans. Et je l'ai revu hier, donc, parce que je l'ai vu il y a 10 ou 15 jours et j'avais pas pris de notes. Et je l'ai revu hier pour prendre des notes, et j'ai toujours pas pris de notes parce que j'étais à fond dans l'épisode, j'avais pas envie de prendre des notes, j'étais trop contente. Et mon canapé à côté de moi, à un moment donné, m'a regardé et me dit « Mais tu te marres depuis le début ?» En fait, j'ai eu un smile pendant tout l'épisode, de sourire limite bêtement parfois, tu vois, vraiment en mode fangirl.
Mais ouais, c'est un épisode
ils sont trop rigolos.
Bien, hein.
J'ai adoré cet épisode, il est rythmé, il a du punch, la dynamique entre les trois docteurs est géniale. Il y a Rose, il y a Clara, mais elles sont présentes juste comme il faut, je trouve. Plus ça aurait été chiant. La reine est géniale, bon bref, voilà, j'adore cet épisode. Et je l'ai vu 2 fois, 10 jours d'intervalle, et je me suis pas lassé la deuxième fois.
Très bien. Bon, sauf si vous avez d'autres choses à rajouter, on est tous, on s'est un peu mélangé, mais je pense que tout le monde a appris. Ah, on n'a pas trop entendu Zu.
Si, si, j'ai quand même fait une belle diatribe pour dire que c'était le pire et le meilleur de Moffat.
Oui,
oui. C'est moi qui ai pas dit. C'est un épisode que j'aime énormément. J'aurais pu mettre dans les points en plus tous les clins d'œil relevés, mais j'ai évité. J'en ai mis quelques-uns, mais
il y en avait beaucoup.
Mais pour en fait, c'est un énorme clin d'œil au premier épisode multi-docteur de Three Doctors qui rassemblait pour la première fois 3 docteurs à l'écran, le premier, le deuxième et le troisième, et ce sera d'ailleurs le dernier de William Hartnell. Et il y a beaucoup de références en fait à cet épisode-là et aussi à plein d'autres dans les dialogues, etc. Pour moi, c'est... Alors, je me rappelle qu'à mon premier visionnage, j'avais pas été déçu, mais j'étais resté sur ma faim. Et en fait, là, en le re-regardant avec, en ayant 10 ans de recul, en fait, c'est un épisode qui, pour moi, est excellent, malgré le fait que Moffat a du mal à faire mourir les gens.
Qu'est-ce qui t'avait laissé sur ta faim il y a 10 ans ? Tu te souviens un peu ou pas ?
Oui, ce qui m'avait vraiment laissé sur ma faim, c'était le fait que ce soit un épisode multi-docteur, mais qu'on n'ait pas la présence des acteurs qui ont interprété en fait les docteurs, genre Colin Baker, Sylvester McCoy, Peter Davison. C'est ça qui m'avait laissé sur ma faim. Mais on a eu un super épisode parodique, The Five-ish Doctor Reboot, qui a aussi été tourné cette année-là. Et en plus, on avait aussi An Adventure in Time and Space, qui était un téléfilm incroyable sur les débuts de Doctor Who. Donc en fait, il y avait tout ça qui faisait que j'étais comblé, mais dans l'épisode en lui-même, j'aurais aimé en fait avoir au moins la présence, juste, je sais pas, un caméo ou un truc par rapport aux acteurs là, mais après
un
avec
peu comme
recul,
ils ont fait à la
dis,
fin
voilà,
de l'épisode
quoi.
avec le curateur du musée quoi.
Ouais, exactement.
Vous okay. pouvez en parler parce que je l'ai pas mis dans mon résumé.
Bon, on en parlera.
Ouais, bon,
au
on en parlera après.
Bon, on le dira.
On en parlera après.
Je vous propose qu'on enchaîne.
This is a fixed point. This must happen. This always happens. Don't worry.
Eh ben écoute, Zu, à toi.
Eh ben, une fois n'est pas coutume, je vais commencer ce résumé par une anecdote perso.
Oh,
une anecdote de Zu.
Mais oui. Il y a de nombreuses années de ça, à une époque où j'avais 18 ans, encore plus de cheveux et des lunettes plus petites que ça, je passais le permis de conduire. Et j'arrive sur un rond-point. Je vois pas de voiture, je m'insère sur le rond-point et j'ai donc loupé mon permis sur ce rond-point vu que l'examinatrice avait considéré que j'avais fait un refus de priorité. Et ben j'ai fait exactement la même chose avec ce résumé, c'est-à-dire que je suis arrivé pour faire ce résumé, j'ai pas vu que c'était Format qui devait faire ce résumé, donc j'ai fait ce résumé.
Franchement, t'es trop sympa.
Je me demandais le lien avec le permis.
Voilà.
Comme quoi, les vieilles habitudes ont la dent dure. Pour plus de clarté, je vais utiliser les noms des acteurs pour les différents docteurs, plutôt que de dire le vieux doc, le docteur, sinon ça sera un peu perturbant. Et on commence par directement le générique.
Je fais la neige
parce que c'est le vieux générique donc.
Moi je fais les enceintes qui craquent.
Ouais.
Et c'est un épisode qui commence là où a tout commencé, à la décharge IM Foreman, ou en tout cas juste à côté, là où Clara donne des cours, donc dans un lycée, et elle reçoit un message du docteur, donc elle le rejoint en moto.
C'est l'école où travaillaient Yann et Barbara dans le tout premier épisode, hein, d'ailleurs. C'est Cole Hill School.
C'est là où se passe classe aussi, non ?
Aussi. C'est le même ? Ah oui, c'est le même.
Je crois.
Ça serait logique.
Oui.
Et c'est là où un autre docteur sera... il est pas prof.
Concierge.
Concierge, merci. Je cherche un
nom. Avec plaisir.
Concierge.
Oui, bientôt. Bientôt.
Que de politesse.
Ah oui, d'accord.
Au programme, bon, pour le week-end, la Mésopotamie et des cocktails sur la Lune. Sauf que le TARDIS se fait tardisnapper par un hélicoptère de UNIT. Et après un coup de fil pour le moins acrobatique, le docteur se retrouve accroché sous la cabine téléphonique et transporté à la National Gallery dans le cœur de Londres. Deuxième générique, mais cette fois, c'est pas...
Alors,
la
attends,
musique.
Alors attends, juste ce moment où le TARDIS se fait enlever, franchement, là par contre, c'était vraiment du scénarium très très lourd. Hein. Parce que...
Aucune raison.
Et surtout, de tout ce qu'on en sait du TARDIS, il se fait pas attraper par un hélicoptère comme ça, c'est pas possible.
Il peut se barrer, surtout.
Il peut se barrer, il peut faire ce qu'il veut. Là, vraiment, c'était juste pour la scène.
Mais
parce que vraiment...
La scène est tellement bien et tellement drôle, clownesque, que moi, à la fin de cette scène-là, j'étais conquise. J'avais déjà le smile qui faisait trois tours de tête. C'est bon, quoi. J'étais contente.
Ben moi, je suis pas étonné, parce qu'il peut pas se barrer comme ça, parce que le docteur, il a enlevé justement le fait que le TARDIS puisse se barrer quand il y a du danger. Donc en fait, je suis pas étonné, et puis ça fait tellement UNIT de faire ça que... Parce que UNIT a déjà récupéré le TARDIS dans différentes situations.
Oui, c'est pas la,
bon,
c'est pas,
pas
la
forcément
première fois qu'ils
héliporté,
le font,
mais ouais, c'est pas la première fois que ça arrive.
Est-ce qu'on tente le I am the Doctor à la bouche, ou on passe à... ou on risque de faire exploser Internet ?
Sans le réentendre, je sais pas faire.
Très bien. Eh bien, vous l'imaginerez, le tin 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 tin
tin tin tin tin. Je sais pas la suite.
Voilà.
Ça change pas.
Donc, on arrive à la National Gallery. Là, on montre au docteur et à Clara un tableau représentant la chute de Gallifrey. Et on a le droit à un flashback où John Hurt, à l'époque, tatane des Daleks en volant une arme si puissante qu'elle a développé une conscience. Le moment.
Le moment.
Je vais essayer de faire un résumé, un peu résumé, parce que sinon on pourrait faire un truc de la longueur de l'épisode. Dans les grandes lignes, si vous voulez vraiment avoir la substantifique moelle de cet épisode, allez le voir.
Juste, je voudrais préciser que l'arme de destruction massive qui s'appelle The Moment, c'est un cube en bois avec des engrenages dedans.
Ouais, un truc très, très Time Lord dans le design.
Créé par Omega. Un des pères fondateurs de... des Time Lords et des TARDIS.
Et c'est pas là qu'on le voit
avec
écrire nos morts à l'arme lourde.
Oui, c'est là.
Sur un mur.
Ouais, c'est ça.
En toute finesse. Il a une arme lourde et il écrit nos morts sur le mur. C'était délicieusement ridicule.
Surtout qu'il écrit en anglais alors qu'il est sur Gallifrey, quoi.
Oui, mais,
non, mais ça, c'est pour nous. C'est pour nous. Ça, c'est nous. On voit, on voyage avec le TARDIS, nous aussi.
Ah,
donc
ouais.
C'est normal, on traduit le Time Lord. mais en fait, je voulais juste revenir sur le moment, là. C'est un morceau de lore qui existait déjà dans les classiques.
Non, pas du tout.
Vous en avez déjà parlé.
Il me semble que c'est quelque chose qui a été... Enfin, j'ai pas le souvenir, parce que j'ai pas le souvenir de tous les épisodes classiques, mais il me semble que c'est quelque chose qui a été inventé par Moffat. Mais ils ont énoncé plusieurs objets d'Oméga, comme la main d'Oméga, etc., qui étaient...
D'accord.
Des vrais objets qui avaient déjà été annoncés, enfin évoqués dans les épisodes classiques.
Voilà.
Ok.
De retour à Londres, on les a fait venir parce que clairement des aliens se sont échappés de certains tableaux, et on a le droit à un autre flashback, cette fois avec David Tennant qui fréquente avec Elisabeth première du nom. Un vortex temporel permet à Matt Smith de le rejoindre, ça compare la taille de leur tournevis, et John Hurt les rejoint à leur tour. Les gardes royaux,
Royaux.
Appréciant moyen qu'on fripcote avec la reine, enferme tout ce beau monde dans la tour de Londres.
C'est tellement frustrant de t'entendre le résumer, parce que tu le résumes très bien. Mais comme chaque image est bien, est une pépite et va bien avec le reste de l'histoire, c'est très frustrant de ne pas rentrer dans les moindres détails.
Je crois qu'il est possible qu'après l'épisode, je le regarde. Très très possible.
Mais moi, en regardant, j'ai eu envie de me replonger dans les classiques. Alors c'est pour dire comme quoi l'épisode, il marche vachement bien, je trouve.
Je rappelle qu'il est disponible sur Prime, si jamais.
Allez le voir.
De retour à Londres à nouveau, Clara est emmenée à la tour de Londres, mais cette fois à notre époque, ou en tout cas à notre époque d'il y a 10 ans. Et c'est là où sont stockés tous les bordels aliens trop dangereux pour le monde, genre Warehouse 13, mais dans Doctor Who. Allez voir Warehouse 13, c'est une super série.
Oui, c'est très drôle.
Voilà. L'entrepôt numéro 13, je crois, en VF.
Ça fait longtemps que t'en avais pas parlé, moi je l'ai toujours pas vu.
Après, ça fait quoi, 2 ou 3 saisons? Ça s'est arrêté assez vite, mais ça a fait un bon run.
Là, j'attends votre watchlist sur le sujet.
Oui, mais c'est disponible nulle part.
Moi, je voulais juste revenir sur les talons de River qui sont une âme mortelle. Voilà, tout simplement pour l'humanité. Tout ça. Juste
ah, elles y
ça.
Sont
voilà.
Oui, elles y sont. J'avais pas fait gaffe.
Donc, la particularité de l'endroit, c'est qu'on vous efface la mémoire à chaque fois que vous en sortez. Là, Clara se rend compte que Unit a été infiltré par des Zygons, donc des gros aliens rouges avec des tentacules.
Des étoiles de mer, quoi.
Ouais.
Mais qui bavent.
Beaucoup.
Et qu'on est
pour. J'adore les Zygons.
Qui devrait consulter un dentiste.
Monsieur Pomme m'a dit que ça lui faisait penser à des pornos japonais.
Bah oui.
Ça peut aussi, je pense. Ouais.
Elle récupère le manipulateur de vortex de Jack Harkness et utilise les coordonnées que Matt Smith a laissées gravées sur un mur de la Tour de Londres pour voyager dans le temps et les rejoindre.
Surtout, c'est le code. C'est pas que des coordonnées, c'est surtout le code pour l'activer. C'est ça qui leur manquait.
C'est ça. Mais comment est-ce que le code est arrivé là? En voilà une bonne question. Dans leur cellule, les docteurs comparent leur taille de tournevis, à nouveau, et profitent de cette réunion du club des génocidaires intergalactiques pour prendre un peu de nouvelles des uns des autres. Une fois qu'ils ont fini de s'envoyer des fions, ils décident de désintégrer la porte de la cellule avec leur tournevis, parce que c'est la solution la plus évidente pour ouvrir une porte. Mais Clara arrive, vu que la porte, elle était même pas fermée.
Alors, une porte en bois, le tournevis sonique ne sait pas faire. Et c'est là où on va avoir pour un truc qui est quand même important pour la suite, c'est que ils annoncent que pour pouvoir bouger toutes les molécules de la porte, bon bref, toutes les raisons à la con, il faut qu'il doit calculer un truc pendant un temps interminable. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont une épiphanie. Le tournevis sonique qu'ils ont tous les trois, c'est le même objet. Il a juste changé. En gros, ils ont changé le skin de leur objet. Donc, dès le War Doctor, ils lancent les calculs pour que, instantanément, ça arrive dans celui de Matt Smith en disant « C'est bon, je sais comment on fait. » Et ça resservira plus tard.
C'est vrai.
Et ils sont sur le point, enfin, donc, de lancer l'ouverture de cette porte.
Voilà.
Et Clara arrive et ouvre la porte, vu qu'elle n'était pas fermée.
Cette scène est géniale.
J'adore ce passage. Oui.
Et c'est intéressant parce que ça je fais une parenthèse un peu de discussion, mais ça introduit un côté très cartoonesque de Clara, qui reviendra très très vite, notamment dans l'ère Capaldi. Je pense à un lancer de journal de la part de Strax.
Qui n'a rien à Strax, on verra ça plus tard.
Mais voilà. Je plante cette graine dans vos esprits, quand vous le verrez, vous comprendrez de quoi je voulais parler. Un Zygon qui a pris la forme de la reine, mais qui en fait est vraiment la reine et qui n'est pas un Zygon, leur explique que les étoiles de mer rentrent dans les tableaux pour envahir la Terre, mais dans le futur.
Et là, pareil, Monsieur Pomme m'a dit « Ouais, donc ça, c'est la scène complètement con où le méchant explique son plan au gentil alors qu'il ne va pas les tuer tout de suite. » Bon, j'ai rien dit, puisque je savais.
Et non,
mais
parce qu'en fait, c'était le gentil déguisé en méchant déguisé en gentil.
Exactement.
C'est ça qui est fort.
Elle est badass, hein, tout le long, la reine.
Elle est géniale.
Toute l'équipe rentre dans un tableau qui a été préalablement déplacé dans l'entrepôt. Bon, entre-temps, David Tennant s'est marié avec la reine, mais ça, c'est une autre histoire. De retour pour la dernière fois à Londres et à notre époque, enfin, il y a 10 ans, la relation entre les humains et les Zygons est placée sous le signe de la guerre froide ascendante Béocouchon. Les docs décident de faire oublier qui est humain, de qui est étoile de mer, comme ça plus personne ne veut se faire exploser, et donc tout est bien qui finit bien. Ou presque. Car John Hurt, lui, il doit toujours aller exterminer les Daleks et les Seigneurs du Temps. David Tennant et Matt Smith décident qu'il n'a pas à le faire tout seul, et qu'ils n'ont pas été sympas de l'exclure du club des docteurs. Mais comme Clara pleure, ils décident plutôt que de tout faire péter, de retirer la manette exactement au moment où les Daleks se tirent dessus pour qu'ils s'explosent les uns des autres et de la sauvegarder ailleurs.
Comme Clara pleure, ils se disent « on va peut-être réfléchir ».
Oui.
On va peut-être trouver une autre solution parce qu'on est quand même trois gros malins.
Comme Clara pleure.
Ben c'est un peu ça. Hein. Franchement, au moment où Clara pleure, en réalité, enfin, j'imagine la scène en vrai, on va dire, trois gars sur le point de faire sauter un truc, une nana qui se met à pleurer. Il y a aucune raison qu'un des trois arrête le mouvement en disant « Dis-moi pourquoi tu pleures ?» Ben parce que tu vas te faire. On le sait pourquoi elle pleure. Après. C'est beau ce qu'elle dit. Enfin, je trouve que c'est un peu poétique ce qu'elle dit à ce moment-là parce que elle lui dit je sais que vous avez fait ça, je l'ai toujours su, mais de vous voir le faire, c'est pas pareil.
Mm. Du coup, c'est grâce à elle que le docteur se remet sur le droit chemin, si on peut appeler ça le droit chemin.
Ou en tout cas, il cherche
une autre solution.
Une meilleure solution.
Donc, vu de dehors, c'est l'histoire qu'on connaît depuis 2005, mais en fait, la planète a été sauvegardée ailleurs. Et au final, le docteur n'a génocidé personne, sauf des Daleks, mais bon, c'est que des Daleks.
Bah, ils se
donc
sont...
le docteur n'est plus le dernier des Time Lords, donc il
n'aurait
presque plus de raison d'être triste constamment depuis le début de la New.
Alors oui, sauf que le docteur étant le docteur, il ne sait pas où il a foutu la planète. Ce qui est quand même vraiment...
C'est autre chose, c'est plus embêtant.
C'est la conclusion de cet épisode, c'est finalement, plutôt que de tout faire péter, j'ai sauvegardé la planète quelque part... Mais il ne sait plus dans quel dossier.
Alors, je dois vous faire une confidence. C'est que dans les années qui ont suivi cette sortie d'épisode, j'ai eu des discussions avec des potes qui suivent Doctor Who. Et des fois, revenait « Non, mais quand même, Moffat, alors voilà, il sauve Gallifrey, et gna gna gna. » Et moi, à chaque fois, je suis là « Ouais, c'est clair. Hein. » J'avais aucun souvenir de quoi il parlait. À quel moment Moffat fait ça. Mais vraiment, j'étais en mode « Mais quoi ?» Et je, oh ouais, c'est clair, oh là là! Mais c'est du Moffat a fait du Moffat, comme tu disais, dans son meilleur et dans son pire. C'est un épisode 100% pur jus brut de Moffat.
Tous les docteurs se réunissent donc pour sauver la planète et balancent leur catchphrase. Puis, comme on est dans une série anglaise, on se pose, on boit le thé, on se dit au revoir. Et on comprend que la nouvelle mission du docteur va être de retrouver sa planète natale perdue quelque part dans l'univers. Bon, sauf s'il y a soirée au Charlie, parce que bon, à un moment, c'est quand même ça le plus important, hein, ça se loupe pas une soirée au Charlie.
Ah bah non.
Tant que c'est ouvert.
Bah oui. Oh. Ce sera fermé au moment de la diffusion de cet épisode, merci de me briser le cœur.
Et quand même, à la fin, il se retrouve dans le musée avec le grand tableau là, qui reprend la chute de Gallifrey. Et comme, alors au début de l'épisode, je crois que tu l'as pas dit, au début de l'épisode, le tableau a deux titres, c'est No More et The Fall of Gallifrey, non Gallifrey Falls. Mm. Et à la fin, le docteur reçoit la visite du curateur, je sais plus comment on dit en français.
Le conservateur.
Du conservateur qui lui dit que bah non, le titre de cette peinture est Gallifrey Falls No More.
Deux points, No More.
No More, donc ça n'arrivera pas.
J'ai trouvé cette fin avec ce curateur,
ce conservateur.
Ce conservateur joué donc par un acteur qui a joué un docteur.
Dans mes cœurs,
totalement cryptique. Je suis pas sûre d'avoir tout compris.
Alors, en fait, je suis pas sûr qu'il faille l'expliquer plus que le clin d'œil. Hein.
Non.
Parce qu'il parle de vieillir, de machin, mais sauf qu'on l'a, vu Tom Baker dans d'autres situations, il a pas vieilli en tant que docteur.
C'est ça, j'ai pas compris si ils ont juste repris cet acteur pour qu'on le voit et voilà, et dire...
Oui.
Ou est-ce que c'était vraiment une apparition du docteur, de ce docteur-là?
Non, c'était pas une apparition de ce docteur, je pense qu'ils ont pris l'acteur.
Okay.
C'était un vrai clin d'œil. Et c'était aussi le côté où
d'œil.
Ça se
même
trouve,
dans
toi,
les
tu
dialogues,
vas être
hein.
moi. Moi, je vais être... Oui, exactement. Mm. Jusqu'à le who knows, quand il met son doigt sur son nez pour dire... qui... En fait, le quatrième docteur le faisait très souvent. Donc, c'est... En fait, le personnage du curator, du conservateur, c'est un clin d'œil au quatrième docteur, mais c'est pas forcément le personnage du quatrième docteur.
Ok. Donc voilà. Là, dans cet épisode-là, c'est bien le vrai... Redites-moi le mot, je l'ai encore oublié.
Conservateur.
Conservateur.
C'est chaud, hein. Donc, il joue vraiment le rôle du conservateur de ce musée, joué par cet acte. Ok, d'accord, merci.
Alors, à la lumière des événements des épisodes du 60 ans, on pourrait se dire qu'à un moment, il y a eu une bi-génération.
Ah, le chat est en train de dire la même chose.
Non, mais oui,
mais
sauf que...
Vous êtes synchro.
Faut pas,
vous êtes synchro.
On spoil pas les 60 ans.
Exactement.
Mais
effectivement, voilà. Toute cette fin, après avoir vu les 60 ans, eh ben, voilà. On pourrait imaginer voir des trucs.
Eh ben, merci Zu pour ce magnifique résumé imprévu.
Ouais, et vraiment, en plus, comme c'est exactement ce que tu disais, Pom, c'est qu'il y a tellement de détails dans cet épisode que c'était hyper frustrant. J'ai commencé à le faire, je me suis dit, il y a trop de trucs. Si vraiment je veux le faire bien et tout, en fait, je vais juste raconter tout l'épisode de A à Z et ça va nous prendre une heure et demie.
Mais non, mais c'est ce que j'aurais fait et heureusement que c'était pas moi.
Et heureusement que c'était pas moi aussi.
En fait, lui, il fait croire qu'il s'est planté, mais il a préféré chanter le truc en sachant que nous, on mettrait beaucoup trop de temps.
Il a été capable de prendre une décision
mais
et
pour
de
pas
maîtriser
nous vexer,
son résumé.
Il a fait croire qu'il s'était trompé.
Ah, putain, si seulement. Mais tout ça pour dire que vraiment, je l'ai chanté, et c'est pour ça aussi qu'il y a plein de moments où je fais des blagues d'une mauvaise foi pas possible, parce que... une fois que tu vires la finesse de l'épisode, ça reste d'une mauvaise foi assez patentée.
Oui.
Bisous à Clara.
Allez, je vous propose qu'on parte sur nos petits points de discussion. On en a quelques... Oh, on en a beaucoup.
J'en ai mis plein.
Allez, Pomme.
Bah vas-y, forme. Okay.
Je sais pas par où commencer, en fait, il y a tellement de choses à dire.
Eh bien, par le premier que t'as écrit.
Ah oui, la transformation de Kate en Zygon est pour moi tout simplement magnifique.
Dégueulasse.
Je trouve que... Ah ouais, c'est dégueulassement magnifique, je trouve. Enfin, en fait, les effets spéciaux, ils sont hyper bien faits dans cet épisode. C'est un truc de dingue. En tout cas, pour le budget
bon
qu'ils
morphing.
Avaient. Ouais, c'est vraiment trop bien fait. C'est vraiment... Gemma Redgrave, elle a dû s'amuser, en fait, à faire ça, c'est trop bien, j'adore.
C'était vraiment elle dans le costume de Zygon derrière, je pense pas quand même.
Non, c'était pas elle dans le costume de Zygon, mais la transformation où on la voit elle avoir les pustules sur la tête là.
Oui.
Je sais pas si c'était
non, propre,
un effet fond vert ou pas, mais enfin un effet, vous savez, où on met les capteurs sur la tête ou pas, ou du vrai maquillage, mais
ça
c'était trop bien
du
fait.
Du maquillage, je pense que ouais.
Ouais, c'était très bien fait.
Moi, je voulais un moment quand il rentre dans Unit, il passe à un endroit où il y a des statues et plein de poussière de statues. J'ai vaguement cru qu'ils allaient nous ressortir les Weeping Angels quand même. Hein.
Ça aurait pu, oui.
Bah oui, c'est pour
ça.
Parce
qu'à l'époque, je pensais qu'il y avait des anges pleureurs.
J'en avais presque peur parce que à part le premier épisode, jusque là, les anges pleureurs n'avaient pas toujours été très, je trouve, très bien traités. Ont perdu de leur superbe au fur et à mesure, quoi. Donc, j'avais pas envie de les revoir encore une fois.
Heureusement, Chibnall arrive.
Ouais.
Ouais, mais tu vois,
mais il arrive.
Je trouve que c'est là où cet épisode est intelligent, c'est que c'est pas l'épisode de l'anniversaire de Moffat. C'est-à-dire que il célèbre pas ce que lui a fait dans Doctor Who, il célèbre Doctor Who. Et les anges, c'est lui spécifiquement.
C'est lui. Tout le monde est d'accord.
Oui, c'est ça. Mais du coup, je trouve que cet épisode est très intelligent pour ça, c'est que c'est pas comme l'épisode des 60 ans, quoi.
Non, mais il a réussi à enterrer.
Il célèbre vraiment Doctor Who et mettre de côté. Ouais, exactement.
Alors, moi, je lancerais beaucoup de fleurs à Moffat sur le fait qu'il ramène des anciens antagonistes. Genre, avec lui, on a retrouvé les Ice Warriors. Là, on retrouve les Zygon. Et en fait, je suis content pour ça, parce que moi je reprochais beaucoup à Moffat de ne pas aller se servir de ce qui a été fait depuis 2005, c'est-à-dire de ne pas trop parler de la période de Russell T. Davis. Et au final, là, dans cette saison en tout cas, celle qu'on vient d'achever là, il nous a ramené les Ice Warriors, il nous ramène les Zygon maintenant. Enfin, je trouve qu'il y a, c'est ça que j'aime beaucoup aussi chez Moffat, c'est qu'il a il nous ramène en fait à des périodes classiques et j'aime beaucoup.
Et il a ce truc où quand même, tu vois, d'utiliser les Zygon comme ennemis pour les 50 ans, c'est assez osé, tu vois.
C'est osé.
Parce que c'est pas... Enfin, oui, c'est des monstres classiques qui sont...
Ils sont apparus qu'une seule fois dans la série avant.
Mais...
C'est ça le pire. Enfin, le pire.
Mais tu vois,
c'est
comme faire un film Batman où le grand méchant, c'est Calendar Man, tu vois. l'homme calendrier qui fait des énigmes avec les dates, ce qui est un vrai méchant de Batman et qui est absolument mineur et ridicule. Mais et là, c'est pareil, quoi. C'est...
Non, ça marche parce que t'as un long Halloween qui est basé sur ce méchant-là et ça fait une pure mini-série, une pure histoire complète de Batman derrière. Donc il n'y a pas de raison que des personnages mineurs ne puissent pas, quand ils sont utilisés intelligemment, ne puissent pas être utiles.
Et donc les Zygons sont très bien utilisés par Moffat maintenant et après avec Capaldi. Donc c'est vraiment hyper agréable de rendre hommage à la série et comme tu le dis, aux 50 ans de la série et pas seulement aux 15 ans de la New.
Pas comme pour les 60 ans.
Alors, on se rapproche. On va y arriver.
Ça arrive. Les acteurs qui jouent un double rôle, c'est vraiment chouette en fait de pouvoir voir. Ça permet de voir le potentiel en fait de l'acteur à interpréter un autre rôle que celui qui lui est destiné, surtout dans le rôle du méchant. Quand on voit Kate Stewart la toute première fois dire c'est bon, ils ont récupéré le corps de ces satanés humains. Ça me fait toujours autant plaisir de prendre possession de quelqu'un d'autre. Je trouve ça vraiment vraiment super chouette quoi.
Moi, j'avais pas fait gaffe au premier visionnage il y a 10 jours, celui de vraiment du jour des 50 ans, on le compte pas. J'avais pas fait gaffe qu'à un moment donné, il y a une bagarre du coup entre Osgood, Petronella, c'est ça son prénom ?
Ouais.
Et son double Zygon. Et son double Zygon arrive à la bloquer et prend son inhalateur, puisqu'elle a un inhalateur. Et après, en fait, la vraie Osgood le met par terre et récupère l'inhalateur. Et ça, j'avais pas vu ce truc de « il récupère l'inhalateur ». Je devais être en train de taper quelque chose pour les filles qui étaient en train de regarder avec moi. Et du coup, à la fin, parce qu'en fait, on a les doubles. Enfin, les docteurs font en sorte que les humains et les doubles Zygon ne sachent plus lequel est humain, lequel est Zygon, pour qu'ils soient obligés de collaborer. Et du coup, on voit... une des Osgood qui commence à faire une crise d'asthme et l'autre qui lui tend l'inhalateur. Donc on comprend qui est l'humain, qui est le Zygon. Et je comprenais pas du coup pourquoi le Zygon donnait l'inhalateur. C'était pas logique. Même s'il sait pas s'il est humain ou Zygon, on sent dans ce duo-là
clairement,
que quand
clairement
même...
Clairement, elles savent. Elles parce qu'il y en a qu'une seule qui est malade
pas,
et qui a de l'asthme.
C'est un peu comme ça que je l'ai...
Non, elle avait...
Elle fait semblant,
à mon avis, le Zygon, il récupère pas les problèmes médicaux et c'est pour ça qu'elle a son inhalateur et qu'elle lui file.
Si, parce qu'elle dit « je tombe toujours sur ceux qui sont qui ont des malfonctions
». Ouais, ouais.
C'est un peu comme les avatars de chair, tu vois.
Ouais, ouais.
Oui, mais c'est ça. Elle récupère même le mal.
Et de toute façon, c'est la vraie Osgood qui récupère l'inhalateur, donc si ça aurait pas de logique que le Zygon fasse semblant d'avoir une crise d'asthme. Ça a pas... Elle a vraiment une crise d'asthme.
Et d'ailleurs, Osgood, quand elle fait tomber son double, elle se sert de l'écharpe qu'elle a autour du cou, qui est l'écharpe du quatrième docteur. Et le quatrième docteur s'amusait beaucoup à faire ça à ses ennemis. Donc c'est un clin d'œil au quatrième docteur.
D'ailleurs, les docteurs... C'est Matt Smith qui, quand il la voit, lui dit « très jolie écharpe ».
Joli cachemire, ouais.
On en a vu beaucoup dans le métro des écharpes comme ça, autour des 60 ans.
J'ai adoré l'épisode, mais j'avoue que... je suis un peu frustré de voir ou de pas voir justement la recherche de Gallifrey, qui est un peu la grande promesse de cette fin d'épisode, en mode maintenant je sais où je vais, maintenant j'ai une mission, maintenant je vais arrêter de faire juste de me balader et de.
Mais il a un futur but et ça va permettre de. Enfin, ce sera le fil rouge de la prochaine saison peut-être.
Voilà. Je vais spoiler, mais non.
Mais oui, mais c'est une façon aussi
de
tromper les attentes des téléspectateurs, je trouve.
Bah ouais, mais là, c'est pas de l'attente, là, c'est de la publicité mensongère à ce niveau-là.
C'est du mot fat tout craché.
C'est-à-dire que, à la limite, il y a eu plus de fil rouge et de quête de quelque chose dans cette saison, dans les saisons 6 et 7 de Matt Smith, où. Bah, il fait l'effort d'aller à des endroits précis pour récupérer des informations, que ce soit sur la chair, que ce soit sur, Clara, tu vois, quand il va voir la nana dans la psychic pour qu'elle fouille dans les pensées de Clara. Ou, tu vois, là, le docteur va à des endroits précis pour faire des choses précises, pour faire avancer. Et je suis désolé, mais on n'aura jamais ça avec Gallifrey et ça me saoule.
Non, je peux comprendre, je peux tout à fait comprendre.
Je suis d'accord.
à un moment, à la fin, quand on voit tous les docteurs, parce que donc quand ils se mettent tous ensemble, tous les docteurs qui ont existé se mettent ensemble pour faire disparaître Gallifrey, on dit les 12 sont là, et puis on entend non, les 13, et là, pouf, on voit les yeux de Capaldi pendant 2 secondes, et bam, on repart sur les autres docteurs. Évidemment, quand au moment des 50 ans, les gens qui, comme moi, ne connaissaient pas cet acteur n'ont pas dû capter, j'ai dû me dire que c'était un des classiques anciens. Et que je connaissais pas. Et là, au moment où je l'ai vu, j'étais toute seule face à mon ordi et j'ai crié « Oh putain, mais génial !» Genre petit frisson, je m'y attendais pas, c'était trop bien.
Il a quelque chose, quoi. Il a l'air vénère. Hein.
Ah, il est vraiment particulier. Oh, ouais, j'aurais dit plus déterminé que vénère, mais ouais, il est pas neutre, quoi. Il est pas là pour se faire chier, il est pas là pour sucer des glaçons. Hein.
Effectivement.
Non, mais voilà, j'ai eu un coup de « Oh putain, génial !» à ce moment-là. J'ai adoré.
Alors moi, ce que je pourrais reprocher à ça, c'est que c'est bien, hein, c'est génial. Hein. Là, en fait, c'était juste aussi un clin d'œil fanservice parce qu'on apprenait, en fait, on avait appris que Matt Smith allait partir et que c'était Peter Capaldi qui allait reprendre. Donc c'était super chouette, je dis pas le contraire. Mais je trouve que pour moi, c'était un peu trop, pour le coup. Mais après, c'était un clin d'œil sympathique et on peut dire que Capaldi a participé.
Ah, ils avaient besoin de la puissance de 13 TARDIS pour faire ce qu'ils avaient à faire.
Oui, mais ils auraient pu avoir la puissance de 50 TARDIS, en fait, hein, parce que oui, bah aujourd'hui, oui. On a 2 autres docteurs. Enfin, non, on a 3 autres docteurs. Ils auraient pu mettre 2 TARDIS de Tennant, en sachant que Tennant a déjà une régénération
à
la fin de la saison 4. Bon. Enfin, voilà, ils auraient pu, voilà. Mais bon.
Tu viens de casser mon engouement.
Je suis désolé.
Bon, et sinon.
Mais c'était trop bien. Moi, j'ai fait pareil que toi la première fois que j'ai vu. J'ai fait Ouais, my God! Mais voilà, avec un regard plus critique.
Et sinon, comme d'hab, la musique est vraiment géniale. Je trouvais qu'elle était particulièrement juste et qu'elle soulignait l'action sans en faire des caisses. Et même à des moments, elle souligne aussi des. Comment dire? Genre. Dans un jeu vidéo, il y aurait eu un petit gring-gring pour dire « Ah là, il y a un indice quelque part ». Il y a des moments comme ça. Et par exemple, le tableau de Gallifrey, au début, il est dans une salle où tout le monde a accès, qui montre la chute de Gallifrey. Et un des gars qui est là le déplace. Au début, on ne sait pas. Enfin, on sait qu'il reçoit un appel, on ne sait pas ce qu'il va faire exactement. Et en fait, quand Clara et la fille du brigadier, j'ai oublié son nom, arrivent dans la salle où il y a tous les trésors, dans le fond, à moitié flou, on voit le tableau. Et à ce moment-là, donc il y a une musique et il y a juste une petite note qui diffère juste au moment où on le voit. Et il y a plein de petits trucs comme ça dans cet épisode où je sais pas, je trouve ça vraiment bon en fait, parce que si tu l'as pas vu, c'est pas grave. Et si tu l'as vu, la musique t'a donné un petit indice à ce moment-là. Et voilà, j'ai trouvé qu'au niveau musique, c'était... c'est toujours bien, mais voilà, là je l'ai particulièrement bien apprécié.
Ouais, les musiques sont cool, mais je trouve qu'il y a des transitions qui sont un peu lourdes quand même, notamment, enfin, je pense à la scène où ils sortent du tableau, où vraiment t'as une musique épique, et là on te rebalance le I am the Doctor, juste la fin, ils shootent dans le Dalek, il y a tout qui explose, et la transition c'est vraiment en mode, ah oui c'est vrai, la musique épique c'est ça, t'es là, un peu
ouais,
lourd.
Ouais, il y a quelques ralentis un peu exagérés aussi, bon. Et j'ai bien aimé que l'épisode ne prend pas le spectateur, potentiellement les nouveaux spectateurs en plus, pour des cons, en faisant des explications ultra lourdes, et notamment par exemple sur le fait, on a parlé du tournevis sonique, qui, si c'est le docteur John Hurt qui commence à calculer un truc, en fait, Matt Smith, comme il est beaucoup plus vieux, le tournevis est beaucoup plus vieux aussi, et il a le résultat de ce calcul. Et donc ça, on nous le met petit à petit dans l'épisode, où à un moment donné, Tennant dit « j'ai 904 ans », et dans une autre scène, Matt Smith, qui ne parle pas à Tennant, place que lui, il a 1250 ans, et en fait, voilà, il y a plein d'infos pareil comme ça qui sont disséminées. Si on les a pas captées, c'est pas grave, mais elles y sont quand même. Et t'as pas une discussion entre les docteurs qui disent ah mais toi t'as tel âge, moi j'ai tel âge, donc ça veut dire que machin et blabla. Enfin, bon voilà, pareil, il y a tout un énervement sur John Hurt qui dit, Tennant qui dit à Matt Smith, il t'a fallu 400 ans pour oublier. Et donc bon, du coup on comprend qu'il y a 400 ans d'écart en gros entre John Hurt et et il y a plein de trucs comme ça où j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Dans certains de ces dialogues, j'ai un peu des fois le sentiment de voir des dialogues de jeux vidéo où dans ma tête, je vois le texte et je vois le 904 ans surligné en rouge.
Oui.
Tu sais, ça, ce sera important plus tard.
Oui, et en même temps, non. Enfin, je sais pas si je l'aurais autant remarqué. Je l'avais pas remarqué lors de mon premier visionnage, par exemple, il y a 10 jours. Là, je l'ai noté parce que je devais être un peu plus attentive à l'histoire parce que je pensais que j'allais prendre des notes. Vous noterez que j'ai noté plein de trucs de tête aujourd'hui. J'ai pas pris de notes hier pendant mon visionnage.
Ah non, mais.
Mais surtout que l'histoire du 904 ans, c'est juste un clin d'œil à l'épisode du Titanic où le docteur dit je suis le docteur, j'ai 903 ans, je viens de la planète Gallifrey, constellation de Cassiopeia, et puis paf, Kelly Minogue lui fait un smack parce que c'est comme ça qu'on souhaite bon courage sur la planète Sto. Donc c'est aussi un clin d'œil. C'est ça que j'aime bien dans cet épisode, c'est qu'il y a des clins d'œil partout.
Oui, les trucs des bisous sont rigolos aussi. Je voulais parler de la reine Elisabeth, qui est, je n'ai pas retenu le nom de l'actrice, mais qui est donc Elisabeth Ière, et qui donc fait des bisous à Tennant, et où John Hurt, à un moment donné, dit à Matt Smith, mais on fait ça maintenant? Et Matt Smith, mi-dégoûté, mi-machin, il dit, ouais, on s'y est mis. Je sais pas si c'est la traduction exacte de la discussion, mais
ça arrivera plus souvent, il dit.
Ouais, c'est ça, mais il le dit avec un air, ouais...
En fait, John Hurt lui dit, ça arrivera souvent ça plus tard. Et Matt Smith lui dit, ouais, ça arrivera plus souvent que tu le penses.
Et Elisabeth Ière, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on part sur l'idée au départ que les docteurs vont devoir la sauver, puisque on pense qu'elle est devenue, que c'est un Zygon qui a pris sa place, etc. Et en fait, pas du tout. Et historiquement, c'est une reine qui a mené son pays d'une main de fer. Et donc de là, de pas en faire une princesse qu'il faut sauver, qui sait pas se débrouiller toute seule, et d'en faire un personnage qui est totalement autonome et qui a pas du tout besoin des docteurs, c'est même elle qui sauve les docteurs, j'ai trouvé que c'était très bien.
Yes. Et c'est Joanna Page, l'actrice qui joue Elisabeth Ière dans cet épisode. J'avais fait une question sur la Gallifrey Academy, c'est pour ça que je me suis permis d'aller rechercher. Et moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, de ce clin d'œil-là, c'est qu'en fait, ça nous replace dans la timeline de Tennant. En fait, on comprend que cet épisode-là, en fait, là où il est, ça se passe juste avant le moment où il va rejoindre les Hoodres dans son tout dernier épisode, où il annonce à Hood Sigma, ouais, je me suis marié avec Elisabeth Ière, etc., etc. Et d'ailleurs, il y a une toute petite erreur, en fait, dans le script. Je sais pas si c'est comme ça en anglais, mais en tout cas, en VF, il y a une erreur qui dit que, ouais, tu t'amuses pendant ta régénération alors qu'il n'est pas encore en train de se régénérer, David Tennant. C'est pas ce moment-là.
Non, je pense que c'est juste une façon de parler, de dire que pendant cette incarnation-là, il s'amuse. Pas régénération, c'était pas dans le sens régénération, il est en train de se régénérer, mais régénération tout le long de cette vie avec ce visage-là.
Ah, moi, je l'avais pas compris comme ça, parce qu'en fait, comme à la fin de son ère, David Tennant, on voit pas tout son périple, mais au moment où il se régénère, il va faire le tour de tous ses compagnons. En fait, moi, je pensais que Moffat l'avait écrit du genre, tu t'amuses pendant ta régénération, c'est-à-dire que là, il te reste quelques heures à vivre et tu vas te marier avec Elisabeth Ière, voilà.
Non,
c'est comme ça que je l'avais compris, moi.
C'est plus ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, tu vois. Ce qui se passe pendant ta régénération.
C'est mal traduit, en fait.
Ton incarnation, en français, il aurait fallu dire.
Ouais, c'est mal traduit, en fait.
Mais...
Putain, j'ai encore plein de trucs à dire. Trop bien.
Bah ouais.
Et format aussi, on n'est pas couché les enfants.
Bah alterné,
pour aller plus vite, tous les moments entre les trois docteurs sont vraiment absolument savoureux. À commencer par le concours de gros tournevis soniques, puisqu'on voit Tennant qui sort son tournevis. On voit Matt Smith qui sort le sien, qui est encore plus gros, qui l'ouvre, là il l'ouvre, t'as un truc qui sort, machin. Tennant qui appuie, ça se lève un petit peu, et puis il dit t'essaies de compenser quoi là, et Matt Smith qui dit je sais pas de quoi tu parles, et Tennant qui dit non mais après les régénérations c'est la loterie, on sait jamais sur quoi on va tomber, ça dure pas longtemps, c'est une connerie, mais voilà, et des petits moments comme ça il y en a plein, et je trouve que l'énergie de toute façon qu'il y a entre ces trois docteurs est vraiment géniale. Bah, par exemple, John Hurt aussi, qui se fout de leur gueule parce qu'à chaque fois qu'ils se font attaquer, ils tendent le pistolet, le tournevis sonique, comme si c'était une arme. Et John Hurt, au bout d'un moment, qui leur dit « Mais ce sont des tournevis, vous allez faire quoi, là? Construire une armoire ?»
Et les enfermer dedans.
Et du coup, l'épisode se moque, je trouve, un peu de Doctor Who, mais de manière assez intelligente. C'est pas lourd, c'est pas...
Ce qui est un truc que River lui a déjà balancé à la gueule.
Oui.
Oui,
c'est vrai.
Go build a cabinet.
Mais bon, le côté, par exemple, John Hurt, qui au début pense que Smith et Tennant sont les compagnons du docteur, parce que lui, il cherche un docteur vieux, du coup, ou plus vieux, en tout cas, qui leur dit non, mais il les aime jeunes. Et il y a plein, plein de trucs. Ou pareil, le John Hurt, on le voit écrire avec une grosse arme, No More. Et après, on voit Rose, dont on n'a pas reparlé, d'ailleurs, là, depuis qu'on discute. Je crois que t'en parles, toi.
Je vais
en
parler après, ouais.
Quand Rose arrive, elle représente la conscience du moment, donc de l'arme de destruction massive, et elle se fout de sa gueule, pareil, en disant « No more, no more, no more !» Ou Clara, tu vois, qui leur dit « Bon, peut-être on va arrêter la grosse tête, là, on va redescendre. » Enfin, il y a plein de petits moments comme ça où ils se foutent un peu de la gueule du lore, enfin, du docteur. Mais bon, c'est voilà. Et comme je disais, c'est savoureux de revoir cet épisode après avoir vu les 60 ans. Celui des 60 ans. Mais on ne peut pas en parler plus.
Moi, j'aime beaucoup le retour de Rose. Enfin, de Rose. De Bad Wolf. Je trouve que c'est une idée qui est brillante, mais vraiment. Et puis, le côté No More, ça m'a beaucoup fait rire. Et aussi, la phrase qu'elle sort. Ah, le docteur perdu entre une fille et une boîte. L'histoire de votre vie.
Ouais, ça c'est marrant. Par contre, les moments où elle la joue tension, elle m'agace. Elle a la bouche à moitié ouverte, là, les grands yeux ouverts, la bouche à moitié ouverte. J'ai envie de lui fermer la bouche parce que à chaque fois j'entends ma grand-mère dire ferme ta bouche, tu vas avaler des mouches. Et en fait, dans ces moments-là de tension, je la trouve marrante, je la trouve tout ça le reste du temps. Dans les moments de tension, elle m'agace.
Ouais, non, là ça allait mieux qu'à l'époque où elle jouait Rose, je sens.
Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est très intelligent et elle est pas là trop. Mais en même temps, ça fait un super clin d'œil. Et quand à la fin, John Hurt, il dit oh, merci le grand méchant loup. Et que David Tennant, il décarquille les yeux en disant quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ?
Ouais, et pareil, ça s'arrête là. Ils en font pas des caisses autour pour réexpliquer.
Ah, mais j'adore. J'adore. Et en fait, je trouve que c'est un clin d'œil magnifique. En fait, Moffat, il a fait un clin d'œil en même temps à la série classique, mais aussi à la New Who avec ça. Et c'est ça qui est génial. Dans ce qu'il a écrit, quoi. Et c'est ce que je disais, il y a vraiment une multitude de clins d'œil à la série classique, mais j'ai pas pu toutes les relever parce que sinon on aurait dû faire un Dr. Watt de plus pour toutes les références, parce qu'il y en a vraiment à la seconde, hein. J'en ai mis quelques-unes dans les moments en plus, dans les infos en plus, mais voilà. Il y a un moment où j'ai vraiment rigolé, c'est le moment où Clara elle rentre dans la prison et que les docteurs lui disent mais quoi t'as fait? Bah, c'était pas fermé à clé, quoi. Pour une fois que Clara est assez drôle, bah, je le note. Et justement, le moment où Ward demande à Matt Smith s'il y aura beaucoup de moments comme ça lorsque Elizabeth embrasse Tennant et que Matt Smith lui dit « Bah ouais, faudra s'y habituer, quoi. » Ça aussi, c'était vraiment très, très drôle. En fait, ça m'a fait penser à l'épisode parodique de Curse of the Fatal Death, écrit aussi par Steven Moffat. En fait, c'est vraiment ça qui m'a fait beaucoup quand tu dis, Pomme, que ça se moque un peu de Doctor Who, mais là ça se moque de Doctor Who dans Doctor Who, quoi. Alors que The Curse of Fatal Death, c'est vraiment un épisode parodique, mais c'est un peu ça. Je pense que Moffat, il s'est beaucoup amusé à écrire cet épisode.
Et c'est là où il est le meilleur, c'est quand il s'amuse.
Ouais, mais c'est ça, c'est quand il se prend pas la tête, en fait.
Au final, c'est un meilleur auteur de comédie qu'un auteur de drame.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Mm-mm. Je suis d'accord avec toi.
Et à l'inverse, Russell T est plus, je le trouve plus fort dans des épisodes un peu méta, un peu sérieux, un peu profond, plutôt que des épisodes drôles.
Je vous propose de passer au moment choisi.
Allez.
Allez-y. Ton moment.
Okay. C'est une citation de John Hurt qui dit que les grands hommes sont nés dans les flammes, mais c'est un privilège des petites personnes d'en initier la flamme, ou quelque chose comme ça en français.
Great
men
anglais,
are born in fire, but it's a privilege of lesser men to light the flame.
Donc je suppose que ça veut plus ou moins dire que tu ne peux pas être un héros s'il n'y a pas un peuple autour de toi,
ça,
globalement, pour te porter en héros.
Ça, ouais.
Et pour t'aider à être un héros. À toi, Grand Poil.
C'était tellement dur de choisir.
Mais à la fin, j'ai pris le moment où ils ont le reveal pour calculer, pour pouvoir niquer la porte en bois et qu'il y a Clara qui entre. Voilà, ça résumait assez bien mon sentiment. Mais franchement, moi, tout l'épisode, c'est blindé de punchlines qui font mouche à chaque fois. C'est pas souvent quand même, mais c'était une torture de choisir un moment dans tout ça.
Ouais, ben je suis d'accord avec toi, j'ai eu le même problème à chaque fois que je me disais c'est ça mon moment, je me dis mais non, je peux pas ne pas parler de celui-là, mais je peux pas ne pas parler de celui-là, mais je peux pas. Donc pareil, je m'étais arrêté sur l'histoire de la porte ouverte par Clara, alors que les trois soi-disant ultra intelligents n'ont même pas pensé à vérifier si la porte était fermée ou pas. Et alors finalement, je suis partie sur un truc très sombre comme moment, parce que ça m'a fait frissonner, c'est quand le moment... donc représenté par Rose, dit au docteur John Hurt que si il fait disparaître Gallifrey, toute sa vie il comptera les enfants qui sont morts. C'est un truc comme ça. Et à un moment donné, les trois docteurs en discutent. Le docteur John Hurt, qui n'a pas encore fait disparaître Gallifrey, demande combien d'enfants. Et Matt Smith répond je sais pas à quelle importance. Alors que Tennant répond du tac au tac, je sais plus le chiffre, mais on parle de millions. Et c'est là qu'il Tennant pète un plomb en disant mais comment t'as pu oublier et comment et bon voilà, ce moment là je le trouve assez dramatique et terrible et voilà, donc j'ai retenu celui-là parce que c'est pas que de la gaudriole cet épisode.
C'est vrai, il y avait quand même du...
Oui. En sachant que tous les habitants de Gallifrey ne sont pas des Time Lords aussi.
Oui, mais là il parle que des enfants, il parle pas des enfants.
Alors,
Time Lords.
L'Irbige dans le chat nous dit merde, ça y est, mon Discord il est reparti en sucette. 8 milliards 470 millions.
Voilà. Mais c'était carrément des milliards, pas des millions.
Ben moi, mon moment préféré, c'est certes le mauvais côté de Moffat, mais c'est quand la révélation de tous les docteurs qui arrivent pour geler Gallifrey dans un moment de stase, on ne sait pas où dans l'univers. Mais c'est vraiment le côté où on revoit. Ben moi, dès que j'ai entendu. En tout cas, en VF, des voix de docteurs, et que j'ai vu les images, William Hartnell, tout ça, bah, ça y est, moi, je crois que j'étais en train de pleurer pour de vrai la première fois que j'ai vu.
Ça m'a fait frissonner,
ouais,
voilà.
Ça a collé les poils à
parce
ce
que c'est... c'est. Pour moi, c'est. Là, ça a été pour moi un coup de génie, quoi, de la part de Moffat, de réutiliser même les images de Christopher Eccleston de la saison 1. Juste en disant et voilà mon coup de maître, enfin il y a eu tellement de choses intéressantes, il y a juste eu un petit bémol dans ce truc, c'est que alors ceux qui ont travaillé sur le montage de l'épisode ont juste décidé de mettre deux fois le septième docteur, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont utilisé une fois le septième docteur dans son incarnation et une fois une image du septième docteur dans le téléfilm, du coup on a deux fois le septième docteur qui apparaît, c'est juste trop drôle, un petit caméo, je trouve ça trop rigolo, voilà.
Bah, très bien, je vous propose de passer aux détails que vous avez probablement loupé si c'est la première fois que vous voyez cet épisode, mais pas nous et surtout pas moi, je vous préviens, j'ai préparé, c'est minutieux ce que je vous ai écrit.
No, hang on, shut up, wait, I missed it, I saw it and I missed it, what did I see, I saw, what did I see, I saw.
Le saviez-vous ? À la base, la seule personne qui était contractuellement obligée d'apparaître dans cet épisode, c'était Jenna Louise Coleman. Donc Moffat s'est d'abord dit « Hey, si on faisait un épisode sans docteur, genre à la fin de l'épisode d'avant, ils ont disparu et Clara essaie de les retrouver. » Puis il a eu l'idée de l'épisode qu'on a là, mais avec Christopher Eccleston qui faisait tout péter. Malheureusement, il a refusé le projet et donc Moffat a inventé le docteur de la guerre.
Moi, j'aurais aimé que Eccleston y soit là avec les autres.
Moi, j'aimerais tellement revoir Eccleston.
Il est dans les audios.
On a parlé des audios la semaine dernière,
il est dans les audios.
Et comme Dr. Watt est toujours dans l'actu, Christopher Eccleston a eu 60 ans cette semaine où nous enregistrons cet épisode.
Bon anniversaire.
Je pense que s'il y a deux docteurs qu'on ne reverra pas, c'est Eccleston et Capaldi, parce que les deux ont dit qu'ils ne reviendraient pas.
Ah oui, Capaldi a dit ça aussi.
Capaldi, oui, il a dit que pour lui, s'il revenait, il deviendrait un docteur. Alors que pour l'instant, il est le docteur de son ère... Et il aime à croire que son docteur vit d'autres aventures ailleurs, mais qu'on ne sait pas lesquelles et on ne sait pas quoi. Alors que Eccleston, c'est parce que ça s'est mal passé et qu'ils ne peuvent pas se blairer,
Oui, c'est ça. En gros, c'est ça. Près, ouais. Les contrats n'ont pas été respectés avec la BBC et Eccleston.
Okay.
C'est pour ça.
Le saviez-vous ? L'épisode débute par le générique de 1963, bande-son et images, noir et blanc, tout ça, et montre l'ombre d'un policier qui se reflète sur le panneau qui indique la décharge où était entreposé le TARDIS lors de son premier épisode. Si vous n'avez pas vu l'épisode, vous pouvez aller écouter notre hors-série sur le sujet. De plus, sur le panneau de l'école, on peut lire le nom de Ian Chesterton, premier compagnon du docteur, et W. Coburn, un clin d'œil à Anthony Coburn, et oui, W comme Anthony, qui est le premier réalisateur de la série.
C'est surtout le nom de famille qui est le clin d'œil.
Au tout début de l'épisode, Clara termine sa leçon par une citation de Marc Aurèle qui sera au centre de cette histoire. « Ne perds pas de temps à te demander ce qu'est un homme bon, sois-le. Waste no more time arguing about what a good man should be one. »
C'est beau ce que tu dis.
Ça fait réfléchir cet épisode. Ah, j'ai dit, c'est pas que de la gaudriole. Hein. Le saviez-vous ? Clara qui entre dans le TARDIS avec sa moto est un clin d'œil au téléfilm de 1996. Je m'en souviens pas. Pourtant, on a fait hors-série dessus, si vous ne l'avez jamais vu, allez écouter notre hors-série. Le dixième docteur utilise la machine qui fait ding, la même qu'il a utilisée dans l'épisode Blink. 10 et 11 inversent la polarité, donc Tennant et Smith inversent la polarité, chose que répétait souvent le troisième docteur.
Oui, avec le flux temporel, là, quand...
Oui, exactement.
Ils n'y arrivent pas tous les deux parce qu'ils font tous les deux la même chose. Donc ça s'inverse, ça s'annule.
Oui, c'est ça, donc ça annule. J'adore.
Ah tiens, d'ailleurs, ça me fait juste... C'est pas dans les trucs en plus. Ça me fait rappeler qu'à un moment donné, Matt Smith parle de timey-wimey stuff, alors que c'est un truc de Tennant,
oui,
à la base.
Oui. Ben, Tennant, il dit « Je n'ai rien à voir avec cette phrase ».
Oui. Voilà. Le dixième docteur, qui dit au onzième qu'il a refait la déco du TARDIS et qu'il aime pas, est une référence au second docteur, qui le dit au troisième. Dans les archives noires, l'entrepôt dont parlait Zu, peut voir un tableau avec les tableaux de l'essentiel des compagnons-compagnonnes du docteur à travers les âges. On voit Clara, entre autres, du coup, qui est déjà venue et qui s'en souvient pas, mais effectivement, on voit d'autres compagnons et compagnonnes.
Bah, on voit Amy, Rory, on voit la fille...
On voit Suzanne, on voit Katharina, on voit Steven,
on voit River,
on voit Yann, on voit Barbara.
Enfin, si, j'avais tout vu, puisque c'est moi qui ai écrit cette phrase, mais...
Bien entendu.
Le saviez-vous, Tom Baker fait une apparition en tant que conservateur, curateur, tout ça. C'est celui qui a tenu le rôle du quatrième docteur de 1974 à 1981. Il est encore aujourd'hui l'actuel acteur détenteur de la plus longue incarnation. Le code d'accès du manipulateur de vortex de Jack Harkness est 17, 16, 23, 11, 63. Car 17h16, le 23, 11, 63, c'est l'heure et la date de la diffusion du premier épisode de la série.
Ouh, joli.
T'as, j'aurais une question juste après les deux, le saviez-vous, qui me reste. Le saviez-vous ? C'est le grand retour des Zygons qu'on voit pour la première fois à l'écran en 1975 avec Tom Baker et Sarah Jane Smith. Et c'est la dernière fois qu'on verra Matt Smith avec un fez dans la série Emoji qui pleure.
Et donc tu disais que t'avais un truc à rajouter.
Oui, parce que quand le docteur Matt Smith appelle le gars qui doit déplacer le tableau, il dit « Regardez votre téléphone pour valider que c'est bien moi ». Donc il y a une série de chiffres et je sais pas à quoi ça correspond.
C'est ce qu'on appelle un numéro de téléphone.
Oui, d'accord, mais pourquoi ? Non, mais il y a un numéro de téléphone. Moi, quelqu'un m'appelle en me disant « Regarde, valide que c'est bien mon numéro de téléphone ». Je connais même pas le numéro de téléphone de mon copain. Je connais celui de ma mère, je connais le mien, voilà. Pourquoi ce gars-là connaîtrait par cœur le numéro de téléphone du docteur ?
Parce qu'il travaille chez Unit.
Et ouais, parce qu'il est en train d'être appelé à l'instant
même. Et que le docteur
même,
aussi travaille chez Unit.
En plus, le numéro de téléphone, il commence par 07. C'est un identifiant français assez récent.
Oui, mais...
Je me souviens plus du numéro.
Les numéros de portable anglais commencent par 07.
Ouais, je sais pas. Je suis sûr qu'il y a un clin d'œil dans ce numéro, il est pas au hasard.
Bah, essaie de l'appeler la prochaine fois.
Ah bah, je pense même que tu appelles ce numéro et tu tombes sur...
Sur Matt Smith.
Dans le TARDIS.
Je pense qu'il y a un truc au bout de ce numéro de téléphone et que beaucoup de gens l'ont déjà appelé.
Non, je pense que tu tombes sur un chutigatoi.
Oui, en toute logique, c'est ça. Je tombe sur
tu tombes sur le 15e docteur, en fait.
C'est le numéro de téléphone de la conversation WhatsApp inter-docteur.
C'est ça,
exactement.
Ou en fait, ils sont que trois, au final.
Exactement aussi.
C'est Jodie Whittaker qui raconte le moment où, donc globalement, comment est-ce que les acteurs et les actrices qui jouent le docteur apprennent qui est le suivant ou la suivante, c'est qu'ils reçoivent un coup de fil de la suivante.
Ouais, c'est sympa, je trouve.
Et donc, t'as Whittaker qui raconte qu'elle attend un coup de fil d'un numéro qu'elle connaît pas. Mm-hmm. Puis il y a David Tennant qui l'appelle. Donc elle raccroche parce qu'elle attend le numéro, elle attend le coup de fil. Donc t'as David Tennant qui rappelle. Et alors, bah, attends, j'attends que le prochain docteur m'appelle. Il fait, bah oui, mais c'est moi.
Ça m'étonne même pas d'elle. J'adore.
Bon, ben voilà. Ouais. On a fait le tour de cet épisode fabuleux.
Oh là là.
Globalement, on est content quand même. Hein. C'était un
oui.
bon épisode. Hein.
Et puis, on se retrouvera ouais. dans 15 jours pour un épisode spécial Noël.
Oh, oh là
qui
là.
Est l'épisode de la régénération. On dit au revoir à Matt Smith dans 15 jours.
Ouais. Ça ouais. va changer.
Et là, il y a aussi plein de références dans cet épisode.
Comme voilà. tu dis.
Ça va être dur.
Je vais pleurer encore.
Et vu qu'on est dans les anniversaires, je fais un petit peu de pub pour une soirée qu'on avait organisée pour les 60 ans de la série, donc il n'y a pas si longtemps, et que vous pouvez aller réécouter, qui est maintenant sur Spotify. Donc vous avez un beau podcast de 2h45, soit un demi-épisode de la Gallifrey Academy, mais quand même.
même pas. La Gallifrey Academy, maintenant on arrive à aller à 2h45. De podcast.
Et donc ça s'appelle Une soirée in Space and Time. Ça a été organisé au Charlie et sa bière à deux balles par Romana Dodici et Thomas Erquette avec votre humble serviteur à la technique. Et il y a plein de monde. Il y a François Descraques qui est là. Il y a le détective Froussin qui fait un peu de stand-up au début. Il fait 10 minutes de blagues sur Doctor Who. Et c'est plein de hot takes sur l'univers de Doctor Who. Et voilà, il y a du quiz, il y a plein de trucs. Et, c'est 3 heures dans l'univers de la série et je pense que ça vous plaira.
Je suis deg parce que j'aurais dû être dans le public et à cause du travail, ben, j'ai pas pu être dans le public.
Ben, pareil.
T'aurais dû être sur scène, Pomme.
J'aurais dû être sur scène. Eh ben, oui. Super.
Encore pire.
Moi aussi, je suis trop deck. Parce que j'aurais voulu venir, mais j'ai pas pu non plus.
Tout ça à cause du capitalisme. Allez, on va clore cet épisode.
Ça dénonce. Ça dénonce.
À cause du capitalisme. Et comme Dr. Watt est un label, tu peux... est un podcast et label podcast.
Donnez des sous.
Dans le Patreon. N'hésitez pas à donner des sous dans le Patreon. Venez sur Discord et découvrez aussi les nouveaux podcasts qui ont rejoint le label il n'y a pas longtemps.
Oui. Et alors lesquels y sont?
Voilà. Il y a Préhistorique.
Oui.
Il y a Boucalicius.
La Grosse Bouffe.
Et Dépêche Pod.
Allez.
Allez, on est bon. Des bisous tout le monde. À dans 15 jours.
Jours. Et joyeux Noël.
Bye bye. Bye. Lara sometimes asks me if I dream. Of course I dream, I tell her. Everybody dreams. But what do you dream about, she'll ask. Same thing everybody dreams about, I tell her. I dream about where I'm going. She always laughs at that. But you're not going anywhere, you're just wandering about. That's not true. Not anymore. I have a new destination. My journey is the same as yours, the same as anyone's. It's taken me so many years, so many lifetimes, but at last I know where I'm going. Where I've always been going. Home. The long way round.
Ce sera le moment où Matt Smith dit « Maintenant, je sais où je vais. Je vais me mettre au milieu de toutes mes anciennes incarnations avec... »
Ah, j'ai pas de raconter cette anecdote, oui.
Mais je trouve, en plus, cette scène, elle est... l'imagerie, elle est super cool, mais la réalisation, je veux dire, visage
mal
de
découpé,
Top
hein.
McGann, il est super
non.
mal découpé.
Alors, je vais vous expliquer, c'est pas du découpage. Ce sont des acteurs qui ont des capteurs sur leur visage. Donc, ce sont de vraies personnes, de base, avec des perruques et des capteurs sur leur visage.
Oui, ouais, mais c'est mal ça t'empêche que le résultat est pas clean.
Ah oui, c'est moche, c'est très très moche, hein.
À part pour un ou deux où ils arrivent à avoir, ouais, ça, tu vois, notamment le premier docteur, il est à peu près réussi derrière et tout, mais sinon.
Ouais, et encore, le premier docteur, il fait très image de synthèse, je trouve.
Ça va dans le chat, vous êtes contents? Cet épisode vous a plu, cet enregistrement? Il y a plein de nouveaux, il y en a plein, c'est la première fois qu'ils étaient là.
Ouais.
Mais c'est marrant parce que quand tu parlais format du 13e docteur qui arrive, du 12e docteur d'ailleurs qui arrive pour aider. Moi, mon rêve, c'est qu'un jour, on ait un épisode multi-docteur avec genre 3 docteurs qu'on connaît pas.
Qui vont aider Gallifrey.
Non, ou tu vois, enfin, genre, tu commences l'épisode avec, on va dire, Shooty Gatois.
Ouais.
Et genre, 2 docteurs que tu connais pas.
Ouais.
Et à la fin, Shooty Gatois, il se régénère en encore un docteur qu'on connaît pas. Et ces 2 acteurs-là, c'est ceux qui seront après.
Oh, ah ouais.
Tu vois,
okay. Non, mais...
d'avoir un
ouais,
vrai.
Mais après, faire attention parce que l'acteur vieillit. Donc, mais je comprends l'idée.
Mais tu rajoutes des nouveaux gens en images de synthèse partout, quoi. C'est plus possible.
Le problème, c'est que, à cause de la BBC, s'ils montent un plan comme ça, dans les 15 jours, on est au courant des 10 prochaines saisons.
Ah, mais bien sûr.
Enfin, je veux dire, on a des infos des 3 saisons à venir, sur les 3 saisons à venir.
Ah, ouais, moi, ça me cassait, quoi. Alors,
ils ont quand même réussi, tu vois, c'était quoi, le docteur fugitif?
Ah ouais, ça c'est incroyable.
Où ils avaient réussi à bien garder le secret de ça.
Ah ouais, 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 ça c'est incroyable.
Et ça, on peut pas...
On peut pas en dire plus maintenant.
Non, on peut pas en dire plus maintenant, mais c'est aussi l'ère Chibnall où, pour le coup, on n'avait aucune info sur rien du tout.
Alors moi, vous allez m'entendre dire du bien de l'ère Chibnall.
On n'y est pas, on a encore 3 saisons. Hein. Chibnall, c'est dans 1 an et demi, du coup, 3 saisons, c'est 1 an et demi à peu près. Ah bah super, Corée. On est en train de finir de se dire au revoir, là, on a fini d'enregistrer.
C'est clair, c'est clair.
Oui, c'est ça, ça fait à peu près 1 an et demi.
On va finir par les rattraper, hein.
Bah oui.
Ah oui, parce qu'après, il y a que des épisodes par saison, donc on aura moins d'épisodes à... Il y aura moins d'épisodes.
Voilà, bon, ça, ce sera une petite scène post-générique avec... Pour les gens qui seront restés jusqu'au bout de ce long épisode des 50 ans. Donc, dans 15 jours, on fait l'épisode de Noël.
Et m'occupe absolument de tout le racontard de cette histoire.
Ouais, c'est bon, c'est retenu, je te laisse le faire. Mais t'as à peu près autant de challenge que sur celui-ci pour essayer de le faire en une page et demie. Parce que le suivant, il est dense. Hein.
Moi, je tiens à dire que mes résumés font souvent 2 pages et demie, mais qui sont toujours très courts dans...
Oui, non, mais je dis pas que tes résumés sont longs d'habitude. Je dis que t'as du challenge pour le prochain.
Oui, je sais.
Parce que entre toute la scène où ils sont à poil, le disque dur papal et toutes les micro-aventures qu'il y a sur la planète, je pense que
il y a des détails qui sont moins utiles que les autres.
Je saurai.
Mais effectivement, c'est encore un moment où on ne sexualisera pas le docteur même s'il est nu.
Exactement.
C'est jamais ça, non ?
C'est un épisode pour format, en fait.
Bon, allez.
Des bisous, tout le monde.
Des bisous. Ciao, ciao. Reposez-vous bien. Podcast.